Béni soit le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge. Juste à coup dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Juste à coup dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, juste à court dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Juste à coup dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Le Très-Haut.
Connaissez-vous le berger d'Israël? La réponse est peut-être oui. Connaissez-vous Moïse? C'est dans la Bible, hein? Dans la Bible, oui. Oui, il fait peur, là. Ouh. Alors, je vous propose justement de méditer un peu sur la vie de Moïse. Vous me direz, de la part d'un juif, ça, c'est un peu normal, mais bon. Il a beaucoup à nous apprendre. Alors, je vous invite à ouvrir simplement vos Bibles au chapitre 3, verset 1. Alors, un passage qui est bien connu, Exode 3, verset 1, cet appel de Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Alors voilà un récit que peut-être la plupart d'entre nous, je pense, connaît ou croit connaître. Parfaitement. Moïse, après bien des péripéties, est appelé par Dieu à faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour le conduire vers le pays de la promesse faite aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le récit commence, si l'on peut dire, dans les tout premiers chapitres du livre de l'Exode, par l'intervention manifeste de Dieu, et même une intervention, pour ainsi dire, miraculeuse, pour préserver l'enfant Moïse des entreprises diaboliques du Pharaon. Et on perçoit Dieu au contrôle de la situation. Et pour les lecteurs que nous sommes, on se dit que le Seigneur avait là un plan précis pour racheter son peuple et le mener hors d'Égypte. Vient ensuite le temps de l'échec. et l'impression qu'un grain de sable est venu enrayer le plan parfait de Dieu. En effet, Moïse, croyant bien faire, en vient à commettre un meurtre et doit prendre la fuite comme un fugitif. Bien sûr, pour nous qui connaissons la suite de l'histoire, c'est un peu plus facile. Et il nous est aisé de relativiser un peu les choses et d'affirmer après coup que même les échecs apparents ont été employés par Dieu pour mener à bien son projet. Mais Moïse n'a pas ce recul de l'histoire que nous avons. Et sans le savoir encore, il est en réalité un élément clé du projet divin pour Israël. Alors, tentons l'effort, difficile j'en conviens, de faire un peu abstraction de notre connaissance de la suite du récit. Et essayons un petit peu de nous mettre dans la peau de Moïse. D'autant plus que dans le temps présent, nous pouvons facilement nous trouver dans des situations relativement comparables. Mais je vais y revenir. Alors, dans ce récit, comme dans bien d'autres dans la Bible, on est tenté de se demander si Dieu aurait pu faire autrement. En d'autres termes, Dieu aurait-il pu choisir un autre? Et même, n'aurait-il pas pu faire les choses lui-même, mieux et plus rapidement? Et ce ne sont là que des considérations humaines, tant nous percevons en général la réussite que sous l'angle de la conformité au plan établi, et même à la rapidité d'exécution de nos projets. Maintenant, Dieu aurait pu en effet agir tout autrement, et sans doute de manière plus efficace, c'est vrai. Mais il a préféré agir avec le concours d'êtres humains faillibles et susceptibles de se tromper et de faire des erreurs. Et s'il agit de la sorte, c'est parce qu'il lui plaît de faire participer à sa gloire des êtres qu'il a créés à sa propre image. Moïse, cependant, que connaît-il de l'intention de Dieu? Peu de choses en réalité. Que sait-il de Dieu? Rien de plus que ce qu'il a reçu peut-être dans sa prime jeunesse. Que sait-il de son peuple? Il se souvient des souffrances de son peuple, certes, mais surtout de son échec personnel à établir une vraie justice entre Israël et ses bourreaux. Moïse garde le souvenir imprégné en lui-même de sa terrible disqualification. D'abord devant le peuple d'Israël. En effet, le meurtre de l'Égyptien qui battait un Hébreu n'a pas été le signe probant aux yeux des Israélites qu'il était celui en mesure de délivrer Israël de l'oppression et de l'esclavage. Ensuite aussi, devant les Égyptiens eux-mêmes, il est en effet un enfant illégitime, meurtrier d'un autre Égyptien, et par-dessus le marché, un homme lâche en prenant la fuite vers l'étranger. Et nous de poser la question, tout comme Moïse ne se l'a posé sans doute depuis près de 40 ans. Moïse était-il le meilleur candidat pour cette mission? Et si oui, comment maintenant Dieu va-t-il en quelque sorte le remettre en selle? Et au-delà de la question posée à propos de Moïse, sommes-nous vraiment, à nos yeux, toujours les meilleurs candidats pour la mission que Dieu a en réserve pour nous? En quoi nous sentons-nous peut-être, d'une certaine façon, disqualifiés? Et comment Dieu s'y prend-il pour nous remettre à notre place? Eh bien, c'est ce que je vous propose de méditer, de comprendre à travers notre récit ce matin. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est donc ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. Alors Dieu a parlé de bien des manières aux patriarches, par le passé, avant Moïse, et le plus souvent directement par une voix audible, peut-être aussi une vision céleste, ou même un rêve. Ceci étant, nous ne connaissons pas l'expérience spirituelle de Moïse. avant cet épisode. Toujours est-il que visiblement, Moïse est intrigué par ce phénomène étrange d'un buisson en feu qui ne se consume pas. Est-ce là seulement une manière d'attirer l'attention du futur conducteur d'Israël ? Peut-être. Mais les rabbanim, les juifs, les rabbins penchent pour une portée plus grande de cette vision, comme on va le voir. Verset 4. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu parle à Moïse et l'interpelle du milieu du feu. Par ailleurs, le lieu sur lequel il se tient est un lieu saint. La montagne d'Horeb, comme cela est dit au verset 1, mais là, Moïse ne le sait pas encore, c'est dit a posteriori. Les ordres de Dieu de ne pas s'approcher et même d'ôter ses sandales indiquent à Moïse plusieurs choses importantes. Premièrement, Dieu est saint et il doit être vu et perçu comme tel. Il n'est pas comme l'une des divinités égyptiennes que Moïse connaissait. On ne s'approche pas de Dieu à la légère si on n'y est pas invité. Se tenir dans la présence de Dieu signifie se tenir dans sa sainteté. D'une certaine façon, on ne s'adresse pas à Dieu à la légère. Deuxièmement, la marche dans le désert peut être difficile et même dangereuse si l'on ne possède pas de souliers. Outre la poussière, les cailloux peuvent blesser le pied et l'absence de protection peut permettre l'agression de toutes sortes d'animaux nuisibles. Ôter ses sandales ici peut donc signifier s'exposer au danger, ou en l'occurrence concrètement se soumettre à la protection divine. Ôter ses sandales est donc une démarche d'humilité devant le Dieu saint, une démarche de foi et de confiance. Ce qui m'amène à exprimer une première conclusion. Maintenant comme hier, s'approcher de Dieu est toujours possible, mais cela suppose d'abord de reconnaître que si Dieu est saint, nous ne le sommes pas. Dieu n'est pas mon copain, un parmi d'autres. La pureté signifie que je ne peux mettre Dieu à côté d'une idole, aussi moderne ou accommodante soit-elle. Quand on cherche la volonté du Seigneur, pour soi comme peut-être aussi pour l'Église, le premier pas est toujours celui qui nous met à notre juste place et Dieu à sa vraie place. Se déchausser est quelque part humiliant. Il arrive que l'on enlève parfois ses chaussures en arrivant chez ses hôtes, évitant ainsi de salir le parquet ou la moquette. Ceci dit, parfois ce sont les odeurs sortant de nos chaussures ou provenant de nos pieds qui peuvent incommoder les uns comme les autres. Dans le contexte du tabernacle, les sacrificateurs devaient, sous peine de mort, avant de se mettre à l'œuvre, se laver les mains et les pieds. Exode 30, 18 et 19. L'eau de la cuve avait symboliquement la fonction, non pas en soi de purifier, mais de rappeler à chacun sa place. La cuve, en effet, était en bronze, réalisée avec les miroirs précieux des femmes israélites. Ces miroirs servant évidemment à refléter le visage. La peine de mort s'appliquait donc à quiconque ne prenait pas la peine de d'abord se regarder dans le miroir pour se situer par rapport à Dieu. C'est bien évidemment le sang qui purifie, mais on va y revenir dans les signes donnés à Moïse par la suite. Beaucoup plus tard, j'imagine fort bien Pierre embarrassé et interpellé quand Jésus s'apprête à lui laver les pieds ainsi qu'aux autres disciples. C'est que Jésus souhaitait faire l'impensable à leurs yeux. Au-delà de l'exemple donné par Jésus d'humilité et de soumission mutuelle entre les disciples, Jésus indique peut-être également comment nous devons nous tenir tout simplement dans la présence de Dieu. Mais poursuivons, verset 6. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Au verset 6, l'Éternel poursuit en énonçant qui il est. Mais il fait plus encore pour Moïse. Il lui dit qu'il est le Dieu de son père. Ce n'est pas un simple jeu de langage. Sinon, il aurait dit qu'il est le Dieu de ses pères. Non, il dit le Dieu de ton père. Pour un Moïse déraciné et cultivant le sentiment d'une certaine délégitimation par sa double appartenance à l'Égypte et à Israël, c'est un point crucial de repositionnement indispensable. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob interpelle d'abord sur le rappel des promesses faites au Père. Genèse 15, versets 13 à 15. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront ensuite avec de grands biens. » Cette même formulation prophétique projette ensuite Moïse dans la perspective du monde à venir et même au-delà de la mort. Ce que Jésus semble confirmer quand il dit en Matthieu 22, verset 32, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Moïse comprend à présent à qui il a affaire. Il ne s'agit plus des idoles vaines de l'Égypte que l'on peut « voir » entre guillemets sans craindre leur courroux, mais bien du Dieu vivant, le Dieu de son Père, le Dieu de ses Pères, le Dieu de la promesse faite à Abraham. Et à la différence des divinités d'Égypte, qui doivent être vues en quelque sorte pour exister, eh bien, le Dieu d'Israël se distingue par son invisibilité et une sainteté sans comparaison. Ce qui m'amène à une deuxième conclusion. En se présentant face à Moïse, Dieu ne se contente pas de rappeler qui il est en rapport avec les ancêtres passés des Israélites. Il redonne à Moïse légitimité en l'incluant parmi la descendance sainte de ceux qui sont vivants au-delà de la mort. Parmi nous, il y a certes peut-être quelques fils d'Israël, j'ai pas fait un sondage, mais aussi peut-être et bien sûr bon nombre de fils adoptés, selon la promesse faite à Abraham. C'est ce que dit Paul en substance en Galates chapitre 3, verset 7. « Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. » Ainsi donc, les Israélites, comme les païens qui ont la même foi que le patriarche Abraham, sont rendus dignes de participer à la famille de Dieu, le Dieu qui nous fait voir les morts comme vivants, à cause de la promesse parfaite de Dieu, de laquelle nous ne doutons pas. Car celui qui ne perçoit pas le monde à venir tel qu'il est, n'a pas encore connu Dieu tel qu'il est véritablement. Découvrir et comprendre ce que le Seigneur souhaite pour nos vies personnelles, comme peut-être pour l'Église, passe par une claire compréhension de qui est Dieu. Poursuivons au verset 7. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. » La parole de l'Éternel à Moïse est à présent une succession de verbes où Dieu est le sujet. Il voit, il entend, il connaît, Il est descendu et il fera monter, tandis que le cri des Israélites est parvenu jusqu'au Seigneur. Pour les rabbanim, les commentateurs juifs, Moïse n'a pas vu comme Dieu a vu la situation des Israélites. D'autant qu'il n'a pas partagé la même souffrance, lui-même étant à la cour de Pharaon, dans une situation très certainement bien plus confortable que celle des esclaves israélites. Si Dieu développe aussi longuement sa propre perception de la situation du peuple d'Israël sous l'oppression, c'est peut-être bien pour amener Moïse au même sentiment que lui et l'inviter à s'engager dans la mission qui va être la sienne. Au verset 7, nos versions en français ont en général une seule fois l'expression « j'ai bien vu la misère ». Or, en hébreu, le verbe « voir » est répété à cet endroit deux fois. Et pour certains commentateurs, cela signifie que Dieu comprend la douleur d'Israël doublement. Comme s'il y était, contrairement à Moïse qui ne semble pas percevoir la même chose. Ou pour le moins, pas avec la même intensité. Ce qui m'amène à ma troisième conclusion. Avant de recevoir son ordre de mission, Moïse se doit de ressentir, en harmonie avec Dieu, la même souffrance et la même compassion pour le peuple d'Israël. Depuis 40 ans à garder les moutons de son beau-père, Moïse a peut-être un peu perdu de vue la réalité des souffrances de son peuple. Mais même s'il ne peut pas ressentir très exactement ce que ressent son peuple à l'instant présent, il doit comprendre que Dieu, lui, a décidé de réagir et mettre un terme aux souffrances terribles d'Israël. L'empathie n'est pas forcément un sentiment facile à avoir envers ceux qui souffrent, mais de savoir Dieu capable de ressentir et partager les mêmes conditions que nous, en d'autres termes ou pour d'autres personnes ailleurs dans le monde, doit nous inviter à l'action et même à la réaction. Cette disposition explique notamment pourquoi Jésus devait venir parmi les hommes et partager la même condition humaine, les mêmes souffrances et les mêmes limitations pour pouvoir compatir avec nous et nous de ressentir la même empathie de sa part. Ce que le Seigneur attend de nous passe parfois par le partage de la même compassion de Dieu envers les hommes et les femmes qui nous entourent. Voir doublement, si j'ose dire, avec nos yeux et les yeux de Dieu, dans ces circonstances, voir avec le cœur précède toujours l'action avec la foi. Maintenant, va, verset 10, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ? Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Alors on en vient à présent à l'objet de la mission, qui comporte en réalité deux phases. La première est celle proprement dite de faire sortir Israël d'Égypte, avec tout ce que cela comporte. Et la seconde, c'est d'amener le peuple à devenir le peuple de l'Éternel et d'aller sur la montagne de l'Éternel pour lui rendre un culte. Moïse ne se sent évidemment pas à la hauteur, mais quel homme aurait pu répondre autrement à Dieu en pareille circonstance ? Cela aurait peut-être même été plutôt présomptueux d'accéder immédiatement à la demande de Dieu. Le plus étrange est surtout le signe donné par Dieu. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. La réalisation de ce signe ne sera effective en fait qu'a posteriori. Comment donc ce signe doit-il être interprété ? À dire la vérité, la vraie mission de Moïse, la plus difficile, est celle qui lui demandera sans doute le plus d'investissement personnel. Ce n'est pas à proprement parler de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, mais de l'amener à adorer le Seigneur là même où il se tient à présent, devant le buisson en feu. Ce qui m'amène à ma quatrième conclusion. Il y en a qui se demandent combien il va y en avoir. Je vous laisse deviner. Les rabbanim ne se sont pas trompés en suggérant que la mission de Moïse, par excellence, est celle d'accompagner le peuple d'Israël sur le chemin qui conduit à Dieu. Et cela va durer 40 années, autant d'années qu'il a pris peut-être à cheminer lui-même, Moïse, avec le Seigneur, jusqu'à la révélation du buisson. On peut s'imaginer quelquefois que la vocation ultime des disciples est de faire d'autres disciples en appelant des hommes et des femmes à faire le premier pas de la foi. On multipliera à cet effet des réunions d'évangélisation, et c'est bien, bien sûr. Mais si la sortie d'Égypte est en quelque sorte le premier pas, qui ne prend peut-être qu'un instant, eh bien la marche avec le Seigneur est un processus beaucoup plus long qui implique effort et persévérance. La mission de Moïse est d'amener le peuple à faire la rencontre du Dieu vivant, là même où lui, Moïse, a reçu son propre ordre de mission. Une autre manière de comprendre que le chemin que doit prendre le peuple est celui-là même que Moïse a emprunté, et de goûter ainsi la même intimité avec le Seigneur. Arrêter son appel à la seule sortie d'Égypte conduit inéluctablement le peuple à revenir en arrière. Mais poursuivons, verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà comment je veux être invoqué de génération en génération. » Alors, je ne vais pas épiloguer longuement sur la question du nom de Dieu, un sujet très pointu pour les Juifs, aujourd'hui encore. Si bien que la plupart du temps, les Juifs désignent Dieu par la simple appellation Hachem, littéralement le nom. Mais il y a en réalité de nombreuses locutions pour désigner Dieu. Dans la pensée juive, l'expression « je suis qui je suis » « Yehéyé Hacher Yehéyé » traduit l'immuabilité de Dieu dans son éternité. Dans le Nouveau Testament, on a cette idée dans l'expression d'Hébreux 13, verset 8, quand il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Ceci étant replacé dans le contexte, et dans notre contexte, Moïse a sans doute interprété cette expression en rapport avec le sentiment général des Israélites que Dieu les avait peut-être un peu oubliés. Dieu ne change pas, et il est toujours, aujourd'hui, le même, celui qui s'est adressé à Adam, à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à David et à tous les prophètes. Il est aussi le même que celui qui s'est adressé par Jésus-Christ aux disciples, aux apôtres et aux nombreux croyants au travers des siècles qui ont vécu partout dans le monde. Et aujourd'hui encore, il est celui qui est. Il n'a pas changé. Ce qui m'amène à ma cinquième conclusion. Comme Moïse, nous connaissons l'histoire passée de l'humanité et du peuple d'Israël, au travers duquel s'est manifesté avec une fidélité sans comparaison possible avec les idoles de ce siècle. Et l'éternité ne s'arrête pas avec notre présent, bien évidemment. Ce qu'il a pu faire par le passé, il est toujours capable de l'accomplir aujourd'hui, et demain également. C'est aussi vrai pour toutes ses promesses. Ce qu'il a promis s'accomplit toujours et sa promesse n'est pas devenue caduque. Quel que puisse être notre appel et la mission que Dieu nous confie aujourd'hui, il est avec nous et sera toujours avec nous. Dieu va ensuite annoncer à Moïse toutes les merveilleuses actions qu'il va accomplir et les miracles qu'il, qui glorifieront l'Éternel devant les enfants d'Israël et devant le Pharaon. Mais je veux m'arrêter sur les derniers arguments échangés entre Dieu et Moïse. C'est un peu plus loin, au chapitre 4, verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Ah, décidément, Moïse, il est difficile à convaincre. Mais l'aurions-nous été aussi facilement ? Le doute est le premier frein qui peut nous empêcher d'accomplir la mission qui nous est confiée. Pour Moïse, le doute n'est pas ici réellement en rapport avec la puissance de Dieu ou le nom de Dieu dont il est à présent le porteur. Non, c'est en lui-même qu'il ne croit pas. Il imagine à l'avance la réponse des anciens d'Israël. « Oui, l'Éternel ne t'est pas apparu. » Il n'est pas encore allé que déjà il doute. Que répondre à celui qui doute de lui-même? Alors, bien sûr, nous connaissons la suite de l'histoire et on sait bien que ce ne sera pas si simple et peut-être même que les doutes de Moïse seront en partie justifiés. La condition d'esclave du peuple d'Israël dure depuis plusieurs siècles, à tel point que les Israélites ne s'imaginent pas vivre peut-être une autre condition, et certainement pas celle d'une liberté retrouvée. Moïse s'imagine peut-être encore que l'essentiel de sa mission est de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, et que c'est là sa tâche la plus difficile. Eh bien non, la tâche la plus difficile de Moïse, dans l'immédiat du moins, c'est certes d'arracher le peuple à ses oppresseurs. Mais il ne sait pas encore que le plus difficile, en réalité, ne sera peut-être pas de faire sortir le peuple d'Égypte, mais d'empêcher qu'il y retourne. Ce qui m'amène à ma sixième conclusion, et peut-être que vous avez compris qu'il va y en avoir sept. Le doute nous assaille facilement et nous empêche bien souvent de remplir notre mission et de répondre à l'appel qui est le nôtre. Il s'agit moins de l'incrédulité de nos contemporains que de notre sentiment que nous ne serons pas crus et donc bien accueillis. Peut-être que notre message nous semble futile, inutile. Ce qui doit transformer notre approche est d'abord l'assurance que nous sommes porteurs du nom de Dieu qui transcende l'histoire et qu'aucun autre nom n'est capable de tenir devant le nom de l'Éternel. Pas plus les dieux de ce siècle, aussi forts puissent-ils être ou paraître à nos yeux, comme Allah, Bouddha et quantité d'autres aux noms plus ou moins exotiques, que les divinités de l'Égypte qui seront entièrement détruites et jugées par Dieu, devant Moïse, le peuple d'Israël et même devant toutes les nations du monde de cette époque. Moïse a aussi besoin de signes tangibles et il va les recevoir, mais nous les avons aussi reçus. Verset 2. L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ? » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit et cela redevint un bâton dans sa main. « C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Il dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. « S'il ne croit pas, s'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne prête pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. » Dieu termine de convaincre Moïse en lui donnant trois signes concrets, mais non sans signification spirituelle. Trois signes pour convaincre, mais trois signes qui ont un sens et une signification profonde pour les Israélites et permettront à Moïse et au peuple de commencer à se mettre en marche. Ces signes ne sont pas simplement l'expression de la puissance divine au service d'un conducteur spirituel un peu récalcitrant. Ils sont les signes de ce que Dieu s'apprête tout simplement à faire. Premier signe, le bâton qui se transforme en serpent. Alors, est-il vraiment besoin de rappeler que le serpent est pour les Israélites l'animal représentant symboliquement le diable, l'adversaire spirituel par excellence? Le fait que Moïse puisse en avoir la maîtrise indique que le diable est à présent vaincu. Il s'en est saisi par la queue sans le craindre. Lorsque quelque temps plus tard il fera face aux magiciens qui s'emploieront à transformer leur propre bâton en serpent, celui de Moïse engloutira les autres. Le premier signe est d'abord celui de la victoire totale sur l'adversaire de leurs âmes. Second signe, la lèpre. Pas si facile pour Moïse qui, sans doute un peu la gorge serrée, a découvert la lèpre blanche sur sa propre main. Pas simple non plus de devoir replacer sa main dans son sein avant d'en être purifié. Voilà un signe qui touche Moïse au plus profond de sa chair. La lèpre est ici présentée comme un signe déterminant pour les Israélites. Tous considèrent la lèpre comme une sanction divine symbolique en rapport avec le péché. Alors on n'a pas le temps de nous pencher en détail sur toutes les évocations de la lèpre et du sens qu'elle recouvre dans toute l'Écriture. Mais une chose est certaine, le second signe ne trompe pas. Il vient assurément de Dieu et indique que Dieu va purifier son peuple de son péché. Troisième signe, l'eau transformée en sang. Le Nil est pour les Égyptiens la plus grande des divinités d'Égypte. Et le Pharaon l'incarne lui-même et incarne cette divinité du fleuve. L'eau du Nil, qui est transformée en sang, est l'indication du jugement définitif de l'Égypte et de sa divinité qui la dirige. Pour les Israélites, qui pour beaucoup cultivent une sorte de syncrétisme, mettant les dieux d'Égypte à côté de l'Éternel, le troisième signe est la marque d'un jugement définitif de la principale divinité d'Égypte, et à travers elle, de toutes les divinités de l'Égypte. Le troisième signe est l'indication de l'élévation de Dieu, du Dieu des patriarches, au-dessus de tous les dieux de la terre, et même de la mort, en quelque sorte, des idoles. Moïse a reçu ces trois signes qui ont achevé de le convaincre, même s'il faudra encore lui adjoindre, évidemment, son frère, un peu plus tard, comme compagnon d'armes. Ce qui m'amène à ma septième et dernière conclusion. Si Moïse a eu ces signes en guise d'encouragement, nous ne sommes pas non plus, nous-mêmes, aujourd'hui, moins pourvus. Il est vrai que les disciples ont été gâtés, et ce n'est pas les signes miraculeux qui ont manqué aux douze, et même par la suite, par la main des apôtres. Mais les miracles que l'on peut voir ne sont pas forcément les signes que nous devons attendre. Et pourtant, en cherchant un peu, nous sommes témoins de bien plus de miracles que nous l'imaginons. Ce sont nos cœurs qui sont souvent en quête de spectaculaire. Mais beaucoup de gens, même au temps de Jésus, ne se sont pas laissés convaincre par les miracles qu'a opéré Jésus. Quand Dieu nous appelle, il nous donne en même temps tout ce dont nous avons besoin pour croire et nous engager sur le chemin qu'il a préparé d'avance pour nous. On ne se promène certes plus avec un bâton susceptible de se transformer en serpent, mais nous avons cette assurance que le serpent a bel et bien été vaincu. Et c'est Jean qui le dit dans ce passage bien connu de Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous connaissez tous ce passage par cœur. En fixant les yeux sur la croix, ce n'est pas seulement Jésus que nous voyons, mais le serpent vaincu. Voilà notre premier signe. Tout comme Moïse, nous pouvons nous laisser impressionner par la lèpre qui nous colle à la peau, le sentiment d'impureté. Nos impuretés nous retiennent et nous paralysent. Elles reviennent sans cesse devant nos yeux. Mais ce que le Seigneur veut nous faire voir, c'est notre conscience purifiée. C'est ce qu'évoque clairement l'apôtre Pierre quand il parle du signe de Noé et du déluge, 1 Pierre 3, verset 21. C'est ainsi que vous êtes sauvés, maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui depuis son ascension siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. Le baptême est le témoignage d'une conscience purifiée. La résurrection nous donne cette assurance. Là est notre second signe. Enfin, le sang, et le sang versé à la croix, et dont nous nous souvenons régulièrement en prenant la coupe, est le témoignage d'une rédemption que le Seigneur nous a acquise au prix de son propre sang. Car sans le sang versé, il n'y a pas de pardon. La mort à la croix est en fait le troisième signe par lequel nous sommes certains que le péché a bel et bien été expié, la résurrection étant le gage de notre salut. Alors nous arrivons au terme de notre méditation ce matin et nous n'avons en fait qu'effleuré notre texte. Il faudra que je revienne. Moïse aurait encore beaucoup à nous apprendre, mais au point nous en sommes. Avançons avec assurance dans la carrière que le Seigneur nous réserve, convaincu de ce qu'il a promis et que ce qu'il a promis, il l'accomplira parfaitement. Amen.
Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de chanter.
Pendant les nuits, ta fidélité.